3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le Major Jeffrey Boothroyd est un militaire grincheux qui demeure le plus grand expert au monde en armes de toutes sortes. Ce personnage apparaîtra pour la première fois dans le sixième livre de la série James Bond, Dr. No, écrit par l'auteur Ian Fleming. Ce dernier prit son inspiration sur un expert en armes à feu qui vivait à Glasgow et qui lui avait écrit pour lui souligner que le Beretta .25 de Bond n'était pas la meilleure arme pour son personnage et lui conseillera alors le Walther PPK. Boothroyd aurait travaillé si longtemps dans la section Q, une division recherche et développement du MI6 qui invente et fournit les armes et célèbres gadgets aux différents agents britanniques de leur organisation, qu'on aurait décidé alors de le surnommer ainsi. Sur le grand écran, le personnage de Q sera interprété dans Dr. No en 1962 par l'acteur Peter Burton, qui dut céder par la suite le rôle lorsqu'il sera occupé sur le tournage d'un autre film lorsque débutera la production du second volet de la franchise de 007, From Russia with Love, l'année suivante. C'est alors que le réalisateur Terence Young se tournera vers l'acteur britannique et gallois Desmond Wilkinson Llewellyn. Llewellyn naîtra le 12 septembre 1914 à Newport, au pays de Galles, au Royaume-Uni. Il commence à tourner pour le cinéma en 1938, mais c'est en jouant un sénateur romain dans Cléopâtre en 1963 qu'il se fera remarquer. Llewellyn avait déjà travaillé avec le réalisateur britannique Terence Young sur le film de guerre de 1950 « They Were Not Divided ». Après sa prestation dans « From Russia with Love », l'acteur conservera le rôle de Q jusqu'à « The World is Not Enough » en 1999, apparaissant ainsi dans plus de 17 aventures cinématographiques de la franchise de l'agent 007, « Live and Let Die » en 1973, marquant le seul long-métrage où son personnage n'apparaîtra pas. Llewellyn sera donc le seul acteur de la franchise à travailler aux côtés des différents acteurs à avoir interprété le personnage de Bond au 20e siècle, en passant par Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et finalement Pierce Brosnan. Portant le nom de code Q, qui veut dire « Quartermaster », Llewellyn trouva malheureusement la mort dans un accident de la route le 19 décembre 1999 à l'âge de 85 ans, alors qu'il était de retour d'une séance de dédicace. En effet, son véhicule entrera en collision dans un face-à-face alors que l'acteur cherchait à doubler une autre voiture à proximité de la ville de Berwick. Il décédera quelque temps après avoir été héliporté au Eastbourne District General Hospital, laissant dans le deuil sa femme, ses deux enfants, ainsi que tous les amateurs de la franchise et de son personnage. Notre programme double d'aujourd'hui couvrira donc la fin de l'ère Brosnan et touchera à ce moment difficile où nous devrons faire nos adieux à l'un des acteurs les plus aimés de la franchise. Donc, cessez de tester vos nouveaux gadgets et préparez-vous à supporter les sarcasmes de 007, car je vous présente ici les deux derniers films de l'ère Brosnan de la franchise James Bond, soit les films The World Is Not Enough, réalisés en 1999, et Die Another Day, qui sortira en salle en 2002, juste à temps pour célébrer les 40 ans au cinéma de l'agent secret iconique de Sa Majesté.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it.
We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive.
You look fantastic.
I feel great, Chad.
I mean, you look...
Thank you.
You've been working out?
What you got, Chad?
Pierce, I'm so glad you're here because I got a role that is perfect for you, man.
Don't tell me. Action-adventure.
Sort of. All right, picture this. We open on you.
You're driving in a beautiful car up a snowy mountain road. You're going...
200 miles an hour?
No, 30. You look up in the trees and you see...
Sniper.
No, an owl. You come around a bend, there's something blocking your way.
A missile launcher, right?
No, a moose.
A moose.
Well, what's the mission?
Oh, there is no mission.
Top secret, huh?
Yeah, sort of. So you keep going towards the summit, your destination, and there it is, a cabin.
A cabin, and it explodes.
What? No, it's just a cabin.
No explosions.
No explosions, but there are fireworks.
Oh, I like fireworks.
Right?
Can I keep the car?
Oh, yeah, you can keep the car.
Okay, I'm in.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Get more out of life. Go out to a movie.
Alors que défile le compte à rebours vers l'an 2000, il est bon de savoir qu'il reste un nombre sur lequel on peut toujours compter.
Bond.
Bond.
Vous ne savez pas dire bonjour comme ça se fait normalement.
Renard est responsable de tout ça.
Il mourra comme tous les habitants de la ville.
Nous ne négocions pas avec les terroristes.
Ils ne visent que le chaos.
J'ai envoyé 009 pour tuer Renard. Il lui a mis une balle dans la tête, elle y est encore.
Il ne ressent plus la douleur. Il peut se dépasser et tenir jusqu'à l'extrême.
Sans rancune aucune, Monsieur Bond.
Il semble que vous ayez été battu.
Stop! Stop!
N'en faites pas une affaire personnelle.
C'est hors de question.
Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est mon tour.
Nouveau modèle?
Le tout dernier cri de la technologie anti-interception, avec 6 porte-gobelets incorporés.
J'ai toujours essayé de vous enseigner deux choses. La première, qu'il ne vous voit jamais saigner.
Et la seconde,
toujours avoir un plan d'évasion.
Pour l'as des agents secrets.
J'en avais désamorcé des centaines d'autres, n'est-ce pas?
Quand l'enjeu est élevé.
Oui, mais ces bombes-là étaient inertes!
La vie est pleine de petits défis!
Quand un danger imminent vous menace.
Non! Bon!
Il détient.
D'ici demain midi, vous ne sentirez plus rien.
Je croyais que vous aviez pour mission de me défendre.
Certes, l'on reste pro.
Quelqu'un a trafiqué la bombe!
Mais place à l'ego.
Il va falloir que je la récupère, sinon c'est pour mes fesses.
Chaque chose en son temps. Je le retrouverai.
Et qui a peur maintenant, Monsieur Bond?
Je ne vous raterai pas.
Moi non plus.
Vous voulez bien vous exprimer comme tout le monde pour ceux qui ne parlent pas espion?
Pourquoi m'inquiéterais-je de ne pas être assez bien assuré?
Cette fois, vous êtes fini.
Le monde ne suffit pas.
The World is Not Enough, ou Le Monde ne suffit pas, est un drame d'espionnage distribué par les studios Metro-Goldwyn-Mayer le 19 novembre 1999. Ce film américano-britannique d'une durée de 125 minutes coûta plus de 135 millions à produire, mais amassa plus de 361,8 millions au box-office international. Du côté de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène britannique Michael Apt, qui nous avait donné Thunderheart, Gorillaz in the Mist et Nell. Du côté de la production, eh bien, on y retrouve bien sûr Michael Wilson, ce producteur américain qui nous avait donné les films Spectre, The Living Daylights et A View to a Kill, ainsi que Barbara Broccoli, productrice américaine qui, elle, nous avait donné Tomorrow Never Dies, Spectre et Nancy. Au niveau de la scénarisation, c'est Michael Wilson qui sera aux côtés de Neil Purvis, ce scénariste américain, qui fera équipe avec Robert Wade, un autre scénariste américain, les deux hommes ayant travaillé sur Die Another Day, Return to Sender, Quantum of Solace, Stone et la version de 2006 de Casino Royale. Dans la distribution, on y retrouve Pierce Brosnan dans le rôle de l'agent 007, Sophie Marceau, Robert Carlyle, Denise Richard, Robbie Coltrane, Desmond Llewellyn, Maria Grazia Cucinotta, Samantha Bond, Judi Dench et John Cleese. À peine revenu d'une périlleuse mission en Espagne, un agent secret britannique ne peut sauver la vie d'un mania du pétrole assassiné par un dangereux terroriste. Ce dernier avait déjà tenté d'obtenir une rançon pour la fille du défunt, mais la jeune femme avait réussi à s'échapper. Croyant que le criminel s'en prendra de nouveau à celle-ci, 007 cherchera à protéger la riche héritière et découvrira alors un plan qui cherchera à provoquer une catastrophe pétrolière au Moyen-Orient. Cette 19e aventure de l'agent secret britannique 007 devait initialement sortir en l'an 2000. Portant le titre de travail Bond 2000, le titre de The World is Not Enough sera alors choisi et sera une traduction anglaise de l'expression latine Orbis non sufficit, qui était la devise sur les armoires de la famille Bond, expression mentionnée dans le roman On Her Majesty's Secret Service en 1963 de l'auteur britannique Ian Fleming. C'est en novembre 1997, soit un mois avant la sortie du film précédent « Tomorrow Never Dies », que Barbara Broccoli regardera un reportage détaillant la manière dont les grandes compagnies pétrolières du monde se disputent le contrôle des réserves de pétrole inexploitées dans la mer Caspienne à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique et a alors songé que le contrôle du seul oléoduc de la Caspienne vers l'ouest pourrait être une motivation pour un ennemi potentiel de James Bond. Michael J. Wilson et Broccoli embauchèrent alors les scénaristes Neil Purvis et Robert Wade pour travailler sur le scénario du prochain opus lorsque ces derniers terminèrent leur travail sur le film Guns 1748. La première ébauche du binôme sera remise en juin 1998 et impressionnés par le rendu, Broccoli et Wilson embaucheront par la suite les deux scénaristes pour coécrire tous les films suivants de la franchise. Avant de porter le titre de « The World is Not Enough », le film portera plusieurs titres temporaires tels que « Death Waits for No Man »,« Fire and Ice »,« Pressure Point » et « Dangerously Yours ». Après avoir approché le metteur en scène Joe Dante, qui nous avait donné « Gremlins 1 et 2 » et « The Howling », ainsi que Peter Jackson, responsable de la trilogie Lord of the Rings, ce sera finalement le metteur en scène Michael Apt, réalisateur des longs-métrages Nashville Lady en 1980, Gorillaz in the Mist en 1988 et Nell en 1994, qui sera choisi parce qu'il était reconnu pour renforcer les rôles des personnages féminins dans ses réalisations. Au niveau de la distribution, Pierce Brosnan reprendra le rôle de Bond pour la troisième fois de sa carrière, soutenu par la présence de l'actrice française Sophie Marceau dans le rôle d'Electra King et de l'acteur écossais Robert Carlyle dans le rôle de Renard. On offrira alors ici un rôle plus important au personnage de M, qui est interprété pour la troisième fois par l'actrice Judi Dench. Du côté de l'actrice italienne Maria Grazia Cucinotta, celle-ci avait originellement passé des auditions pour obtenir le rôle d'Electra King, mais a finalement décroché celui de Giulietta De Vinci lorsque le réalisateur Michael Apt considéra qu'elle ne parlait pas suffisamment bien l'anglais. Ce film sera marqué par la dernière apparition dans la franchise de l'acteur Desmond Llewelyn, interprète du quartier-maître iconique Q depuis From Russia with Love en 1963. Ce dernier perdra la vie dans un terrible accident de voiture 3 mois après la sortie du long-métrage en salle. Le tournage débutera le 17 janvier 1999 et se terminera en juin de cette même année. La production se situera en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Azerbaïdjan et en Turquie, alors que certaines scènes intérieures seront tournées dans les studios de Pinewood en Angleterre. Pour le tournage de la séquence du pré-générique, Broccoli et Wilson voulaient tourner devant le siège actuel de la MI6 à Vauxhall Cross, mais le gouvernement britannique s'y opposa, invoquant un risque pour la sécurité nationale. Pour la séquence de la poursuite en bateau sur la Tamise, celle-ci aura nécessité plus de 7 semaines de travail et son tournage aurait été ralenti par la partie où Bond passe sous un pont qui se rabaisse. Plus de 35 bateaux auront été utilisés et l'actrice Maria Grazia Cucinotta fut doublée par la cascadeuse et pilote Sarah Donahue, qui a été contactée à la demande de Michael Hapt lui-même. Donahue s'était entraînée sur un lac 5 mois avant le tournage de la séquence et s'était cassée quelques côtes durant les entraînements. Des webcams ont été installées au-dessus de la Tamise pour permettre aux internautes du monde entier d'assister au tournage. Lors du tournage dans le village suisse d'Evolen, une avalanche frappera le village et le tournage sera alors interrompu afin que l'équipe de tournage et leur hélicoptère de la production puissent participer aux efforts de secourisme. De plus, bien qu'une partie importante du film se déroule à Istanbul, seule la seconde équipe s'y est réellement rendue en raison des menaces terroristes de l'époque. C'est le premier film de la franchise à comporter une séquence d'action majeure à Londres, bien que la ville ait été montrée dans tous les précédents opus. De plus, il s'agira ici de la plus longue séquence de pré-générique de la franchise, celle-ci possédant une durée totale de plus de 14 minutes. La voiture de Bond, une BMW Z8, marquera la fin d'un contrat de 3 films entre Eon Productions et la compagnie BMW, leur contrat ayant débuté sur le film GoldenEye en 1996. La première mondiale de The World Is Not Enough aura lieu le 8 novembre 1999 au Fox Broom Theater à Los Angeles, aux États-Unis. À cette époque, Metro Gunwin Mayer avait signé un partenariat marketing avec MTV, principalement pour les jeunes Américains supposés considérer Bond comme un agent des services secrets à l'ancienne. En conséquence, MTV diffusera plus de 100 heures de programmation liées à Bond immédiatement après la sortie du film, la plupart étant présentées par l'actrice Denise Richards. Le film obtiendra plusieurs nominations au Saturn Award et remportera le prix du meilleur acteur, Pierce Brosnan, au Empire Award ainsi qu'au Blockbuster Entertainment Award, alors que le compositeur David Arnold remportera le BMI Film Music Award pour sa composition de la trame sonore. D'un côté plus négatif, ce volet des aventures de l'agent 007 remportera son tout premier Golden Raspberry Award lorsque l'actrice Denise Richards fut choisie pire actrice de soutien cette année-là. L'écrivain Raymond Benson écrira l'adaptation du long-métrage à partir du scénario original. Il s'agira ici de la 4e nouvelle de Bond qu'écrira l'auteur. Du côté des jeux vidéo, Electronic Arts créera un jeu qui sera alors mis sur les plateformes Nintendo 64 et PlayStation. C'est Eurocom qui développera le jeu pour la Nintendo 64, alors que Black Ops s'occupera de la version PlayStation. Des versions pour le PC et le PlayStation 2 furent envisagées, mais les deux furent annulées. Du côté des points positifs, eh bien, Pierce Brosnan possède ici l'assurance, l'humour et le charme requis pour le rôle de James Bond, tandis que Sophie Marceau se débrouille quand même assez bien face à l'acteur. On va assister à un Bond qui est beaucoup plus traditionnel que ce qu'on avait vu avec Tomorrow Never Dies. On va oublier ici l'action au maximum pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus dramatique et un peu plus espionnage. Les séquences de cascade, eux autres, sont tout à fait spectaculaires, tout comme le visuel du film. La séquence finale de Q demeurera probablement l'une des plus mémorables et sa conclusion fait place à un moment d'ironie et de tristesse, ceci étant la dernière séquence tournée par l'acteur Desmond Llewellyn avant son décès. Du côté des points négatifs, cependant, tous les ingrédients sont là, mais la sauce ne prend véritablement pas, principalement parce que le metteur en scène semble vraiment inconfortable avec le tournage des différentes scènes d'action, celle-ci étant véritablement mal tournée. De plus, l'actrice Denise Richards est définitivement ici une véritable erreur de casting, puisque celle-ci est tout simplement incapable d'être crédible dans son rôle de scientifique. Cette dernière, d'ailleurs, pourrait facilement être considérée comme étant l'une des pires Bond Girls de toute la franchise de James Bond. Le scénario est également prévisible et conventionnel, ce qui va enlever toute chance aux spectateurs d'être surpris, surtout par les soi-disant dénouements de l'histoire. Finalement, la qualité des effets spéciaux est véritablement instable, certains effets laissant véritablement à désirer, particulièrement les maquettes et la piètre qualité de certains effets numériques. Au niveau de la musique, eh bien, c'est David Arnold qui nous avait donné les trames sonores de Independence Day, Stargate et Godzilla 1998, qui sera ici de retour pour une seconde fois dans la franchise de 007. À l'origine, la chanson qu'il avait écrite avec Don Black et qui fut chantée par Scott Walker, Only Myself to Blame, devait apparaître pour le générique de la fin, mais le réalisateur remplacera celle-ci par un remix disco du thème de Bond. La chanson-thème The World Is Not Enough fut écrite par David Arnold et Don Black et sera chantée par le groupe Garbage. Il s'agit ici de la cinquième chanson du générique d'introduction écrite par Black, lui qui nous avait donné des classiques tels que Thunderball, Diamonds Are Forever, The Man with a Golden Gun et Tomorrow Never Dies. Je vous fais écouter ici la chanson thème The World Is Not Enough.
I know come to order, pay attention just once. B have a lesson to teach to the dunce. Is the candy good confection?
Now the bakery is perfection.
Have we got a good selection?
We invite your close inspection.
Is the ice cream not delicious? Helpful, tasty, or nutritious? Is the popcorn crisp and helpful?
Yeah, and it is sure a muffle.
Is the soda cold and fizzy?
Vitamins keep the bubbles busy.
That's good, the lesson is learned. A trip to the sweet spa you have earned. Now is time for intermission.
Treat yourself to some nutrition.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Ours, as you know, is not a perfect world. May I? That's why it's so refreshing when something really perfect comes along. Like Diet Coke. Tastes great straight or on the rocks. Yet it's just one calorie. That's why Diet Coke is the perfect soft drink. For an imperfect world.
Just for the taste of it.
Diet Coke.
See your next movie completely free. And now, on with the show.
Quelle vue magnifique.
Mes amis m'appellent Jinx.
Les miens m'appellent James Bond.
Waouh. Tout un programme.
Vous êtes un adversaire de choix, Monsieur Bond.
Si vous continuez, on va se faire tuer.
Maintenant, au travail.
Monsieur Bond vous a exposé sa théorie du Big Bang. Il a des arguments très percutants.
Qu'est-ce qui t'est arrivé,
Bond?
Vous aurez toute la mort pour dormir.
Alors remettons la mort à plus tard.
Die Another Day, ou Meurt un autre jour, est un drame d'espionnage produit par les studios Metro Goldwyn Mayer qui sortira en salle le 22 novembre 2002. Ce film américano-britannique d'une durée de 133 minutes coûta plus de 142 millions à produire et amassera plus de 431,9 millions de dollars au box-office international. Au niveau de la réalisation, c'est le réalisateur néo-zélandais Lee Tamahori qui nous avait donné « Once Were Warriors »,« The Edge » et « Next ». Au niveau de la production, eh bien, on y retrouve encore Michael Wilson, ce producteur américain qui avait travaillé sur « A View to a Kill »,« GoldenEye » et la version 2006 de « Casino Royale », avec à ses côtés Barbara Broccoli, cette productrice américaine qui avait travaillé sur « GoldenEye »,« Skyfall » et « The Rhythm Section ». Pour la scénarisation, c'est encore une fois Neil Purvis et Robert Wade, ces scénaristes américains qui avaient travaillé sur Let Him Have It, The World Is Not Enough, Johnny English et Skyfall. Dans la distribution, on y retrouve encore une fois et pour la dernière fois Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond, Halle Berry, Toby Stevens, Rosamund Pike, Rick Yoon, Judi Dench, John Cleese, Madonna, Michael Madsen et Samantha Bond dans le rôle de Miss Moneypenny. Il est à noter que la fille de Roger Moore, Deborah Moore, aura ici un caméo dans ce film. Lors d'une mission d'infiltration dans la zone démilitarisée de la Corée du Nord, un agent secret britannique est fait prisonnier, trahi par un des membres de son organisation. 14 mois plus tard, il est libéré en échange d'un dangereux terroriste nord-coréen. Décidé à laver son honneur et à retrouver le traître qui l'a trahi, l'agent 007 entame son enquête personnelle dans laquelle il fera la connaissance d'une espionne américaine avec qui il fera équipe pour combattre un richissime homme d'affaires qui contrôle un satellite d'une puissance inégalée avec lequel il compte dominer le monde. Premier film de James Bond du 21e siècle et 20e film de la franchise produite par Eon Productions, ce long métrage marquera les 40 ans de la saga cinématographique débutée en 1962 avec Dr. No, ainsi que les 49 ans de ce personnage légendaire créé par l'écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming, dont le premier roman, Casino Royale, fut écrit en 1953. Il s'agira ici également de la fin de l'ère Pierce Brosnan, qui en sera ici à sa quatrième présence dans le rôle de James Bond, ainsi que le dernier film de la franchise pour l'acteur John Cleese, dont ce sera la seule présence dans le rôle de Q, et de l'actrice Samantha Bond dans le rôle de Miss Moneypenny. Brosnan prêtera sa voix une dernière fois à l'agent britannique pour le jeu vidéo James Bond 007 Everything or Nothing en 2003. Pour ce 40e anniversaire, les scénaristes Neil Purvis et Robert Wade en profiteront pour faire une multitude de clins d'œil aux films précédents de la série. De plus, les scénaristes en profiteront pour étoffer la personnalité du héros en soulignant un côté plus sombre de son caractère. Les réflexions autour de Bond 20 débutèrent peu de temps après la sortie du précédent opus « The World is Not Enough » avec les producteurs Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, ainsi que les scénaristes Neil Purvis et Robert Wade. Les premiers scénarios prévoyaient le retour du personnage de Willin, apparu dans Tomorrow Never Dies, mais l'idée dut être abandonnée en raison de l'indisponibilité de l'actrice Michelle Yeoh. D'autres événements du script ont également été modifiés, notamment l'inversion des rôles de Jinx et de Miranda Frost. De plus, pour célébrer les 40 ans de la série, des références aux 19 précédents opus seront disséminées dans le film. L'un de ces clins d'œil sera lorsque Bond prendra le livre « Bird of the West Indies » sur lequel on peut lire sur la tranche le nom de l'auteur, soit James Bond. C'est en hommage à ce scientifique que Ian Fleming avait baptisé son héros à l'époque. Finalement, l'arme nommée ici Icarus devait à l'origine s'appeler Solaris. Les producteurs en ont modifié l'appellation après avoir appris que le film Solaris, qui sortira en salle en 2002, était alors en cours de tournage. Pour le choix du réalisateur, les producteurs Michael J. Wilson et Barbara Broccoli ont longuement réfléchi et porteront alors leur choix sur le metteur en scène Lee Tamahori, reconnu pour son style dynamique et son sens du visuel. Ce dernier les surprit fortement lorsqu'il suggéra le recours aux images de synthèse pour certaines scènes du film, ce qui n'avait jamais été fait à ce niveau-là dans la saga. Lee Tamahori était également partisan de la théorie des multiples James Bond. Selon cette hypothèse, ce nom ne serait qu'un nom d'emprunt donné aux meilleurs agents, ce qui explique les changements d'acteurs et d'époque dans la saga. Il avait même un temps envisagé un caméo de Sean Connery en tant qu'ancien agent James Bond pour venir délivrer Pierce Brosnan au début du film, mais Wilson et Broccoli refusèrent, ces derniers ayant encore un froid avec l'acteur britannique suite à sa participation au James Bond concurrent de la franchise officielle, soit Never Say Never Again. Du côté de Pierce Brosnan, l'acteur souhaitait alors plutôt travailler avec le réalisateur Brett Ratner, qui avait mis en scène les films de la franchise Rush Hours, qui mettait en vedette Jackie Chan et Chris Rock. Il s'agira ici du film le plus détesté par Brosnan, ce dernier n'aimant pas la panoplie de gadgets et d'effets virtuels trop over the top, suggérant alors au producteur de revenir à une ambiance plus espionnage, comme les premiers films de la franchise, ce qui se referait dans le prochain film de la saga Casino Royale en 2006, mais sans sa participation, puisqu'il sera alors remplacé par l'acteur Daniel Craig. Du côté de la distribution, après avoir pressenti les comédiens Saffron Burroughs et Salma Hayek comme Bond Girl, ce sera finalement Halle Berry qui obtiendra le rôle tant convoité, qui sera revu et étoffé suite à son embauche. Du côté de l'actrice Rosamund Pike, celle-ci n'avait que 21 ans lorsqu'elle a obtenu le rôle de Miranda Frost, seulement 5 jours avant le début du tournage. L'acteur américain Michael Madsen a obtenu le rôle du directeur de la NSC Damien Falco grâce à ses contacts avec Tamahori et Pierce Brosnan, dont il était le voisin à Los Angeles. Il est important de spécifier que l'hôtesse de l'air qui sert une vodka martini à James Bond dans l'avion qui le ramène à Londres est jouée par Deborah Moore, la fille de Roger Moore. Comme les films précédents, ce long métrage met en scène une aventure originale créée par les scénaristes, mais le scénario reprendra néanmoins quelques éléments du roman de Moonraker écrit par Ian Fleming en 1955. En décembre 2001, lors d'une réunion de pré-production, l'équipe du film s'est rendue compte qu'elle ne disposait que de 2 cascadeurs asiatiques qualifiés pour jouer les soldats nord-coréens dans le pré-générique, ayant amené le coordinateur des cascades Vic Armstrong et le régleur des cascades George Aguilar à auditionner des pratiquants d'arts martiaux dans des clubs britanniques et entraîner ces derniers pour la dite séquence. Le tournage débutera le 11 janvier 2002 dans les studios de Pinewood en Angleterre avant de se déplacer en Islande, à Hawaï, puis finalement en Espagne. C'est durant le tournage de la scène se situant dans le laboratoire de Q que le réalisateur apportera l'idée de faire réapparaître d'anciens gadgets et accessoires des précédents films, incluant la chaussure à la lame empoisonnée de la militaire russe Rosa Klebb de From Russia with Love en 1963, le jetpack utilisé par Bond dans Thunderball en 1965 et l'alligator robotisé aperçu dans Octopussy en 1983. De plus, dans le film, Q précise que la montre qu'il remet à Bond est la 20e, une référence explicite au fait que Die Another Day est le 20e opus de la franchise. La production fut difficile pour les acteurs. Durant le tournage de la scène de poursuite en aéroglisseur, qui figure dans le pré-générique, Brosnan se blessera au genou sur les plateaux du studio et a dû partir en Californie pour se faire opérer, interrompant en conséquence le tournage pendant plus de 16 jours, une première dans la franchise. Du côté d'Halle Berry, cette dernière s'étouffa avec une figue en tournant sa première scène avec Brosnan et c'est l'acteur qui a donc dû exécuter la manœuvre de Hemlich pour la sauver. Ensuite, durant le tournage de la scène où Zhao s'enfuit de son hélicoptère, Berry recevra un éclat de grenade fumigène dans l'œil gauche et une opération de 30 minutes fut nécessaire pour retirer les débris. L'actrice a néanmoins pu poursuivre le tournage, mais elle souffrait désormais d'une kératite, ce qui forcera l'actrice à se mettre des gouttes dans les yeux durant le reste de la production. La production fut également compliquée par des conditions météorologiques particulièrement instables pour la saison, ce qui amènera des retards incontrôlables pour le tournage des scènes d'action sur la glace, notamment la séquence de poursuite automobile entre Bond et Zhao. 4 Aston Martins et 4 Jaguars, toutes converties en 4 roues motrices, ont été nécessaires pour filmer la séquence et ont été détruites durant le tournage. Le film est d'ailleurs assez riche en voitures. On peut citer l'Aston Martin Vanquish V12 de James Bond, truffé de gadgets tels que des pistolets automatiques à air comprimé, des missiles thermoguidés, d'une fonction d'invisibilité, de mitrailleuses dans les clignotants avant, d'un siège passager éjectable, de pneus à clous rétractiles pour la conduite sur glace, des vitres à l'épreuve des balles, ainsi qu'une carrosserie et fond de caisse blindée. Il y a également la Jaguar XKR de Zhao qui possède, parmi d'autres armements, un canon rotatif à 360 degrés au-dessus du pare-brise, des bras béliers dans la calandre avant et des bombes air-sol. Il s'agira de la première fois de la franchise que le vilain possède une voiture aussi sophistiquée que notre héros. L'un des décors les plus impressionnants de Die Another Day est sans contexte le gigantesque palais de glace construit sur le plateau 007 des studios Pinewood par le chef décorateur Peter LeMond. Un set qui prit plus de 6 mois à construire et qui n'est pas sans nous rappeler les grands décors utilisés dans plusieurs films précédents de la franchise. Les techniciens ont intégré 98 km de tubes d'acier dans la structure du palais de glace pour que celui-ci puisse résister à la course-poursuite entre Bond et Zhao. Pour la scène du surf de la séquence pré-générique, celle-ci fut tournée sur la célèbre plage de Peach à Hawaï avec l'aide des surfeurs Laird Hamilton, Dave Kalama et Derek Dorner. La séquence fut tournée le 25 décembre 2001 avec la seconde équipe dirigée par Vic Armstrong, qui nécessitera notamment l'utilisation d'un hélicoptère et d'au moins deux jet skis pour les prises de vue. D'ailleurs, dans cette séquence pré-générique, la séquence du gun barrel montrera pour la première fois dans un film 007 la balle fonçant tout droit vers la caméra. La première mondiale de Die Another Day a eu lieu le 18 novembre 2002 au Royal Albert Hall de Londres. La reine Elizabeth II et le prince Philippe en étaient des invités d'honneur. Le Royal Albert Hall subira alors une cure de jouvence pour la projection et avait été transformé en un palais de glace pour l'occasion. Les bénéfices de la première furent versés au fonds de bienfaisance pour le cinéma et la télévision britannique dont la reine était la marraine. Die Another Day sera le film le plus rentable de la franchise jusqu'à la sortie de Casino Royale 4 ans plus tard. Le long métrage a néanmoins suscité d'importantes controverses, surtout dans la péninsule coréenne. Le gouvernement nord-coréen n'a en effet pas apprécié la représentation négative de son État, alors que la Corée du Sud a boycotté 145 cinémas diffusant le film lorsque le gouvernement de ce pays sera offensé par une scène où un officier américain donne des ordres à l'armée sud-coréenne. La chanson du générique d'entrée « Die Another Day » est interprétée par la chanteuse Madonna, qui apparaît également dans le film dans un court caméo. L'appréciation de cette chanson, qui sort du concept habituel des chansons-thèmes de la franchise, sera véritablement partagée au point que Die Another Day fut nominée comme meilleure chanson dans un film au Golden Globe de 2003, alors qu'elle sera également nominée pour la pire chanson de l'année au Raspberry Award de cette même année. Madonna remportera le prix de la pire actrice de soutien pour un film à l'événement du Raspberry Award. Du côté des amateurs, la chanson arrivera au 9e rang sur le palmarès des 22 chansons-titres et sera la chanson favorite du groupe d'âge de moins de 24 ans. Halle Berry remportera le prix de la meilleure actrice dans un second rôle au NAACP Image Awards de 2003. Au final, plus de 20 compagnies paieront un montant total variant entre 70 et 100 millions de dollars afin de voir leurs produits apparaître tout au long du long-métrage, un record pour cette époque. En novembre 2002, Raymond Benson écrira la novélisation du film. Il s'agira alors de la dernière contribution de l'auteur à l'univers de 007, lui qui était connu à ce moment dans le monde comme l'homme derrière l'univers littéraire de Bond, ayant poursuivi la legacy de Ian Fleming. En raison du succès du personnage de Jinx et de sa popularité auprès des fans et des critiques, le studio Metro Goldwyn Mayer envisagea dès 2003 de produire un spin-off centré sur ce personnage qui devait initialement sortir entre novembre et décembre de l'année 2004. Neil Purvis et Robert Wade avaient alors été embauchés pour écrire le scénario et avaient investi 2 mois de leur existence sur ce scénario alors que le metteur en scène Stephen Frears avait été embauché pour la réalisation du projet. Malheureusement, le 26 octobre 2003, MGM prit la décision d'annuler le projet malgré l'opposition des producteurs Barbara Broccoli et Michael J. Wilson. Les raisons de l'annulement seraient dues à un faible résultat au box-office d'autres films d'action mettant en avant des personnages féminins tels que Charlie's Angels Full Throttle en 2003 et Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life distribués la même année. En 2021, Yahoo organisera une enquête sur les meilleurs et pires films de James Bond. Plus de 2200 experts et amateurs participèrent à celle-ci, prétendant que Die Another Day sera le 3e pire film de la franchise derrière Quantum of Solace et Spectre. Du côté des points positifs, eh bien, disons tout simplement que l'intro est tout simplement spectaculaire, le film débutant avec un gigantesque bang. Anniversaire oblige, le film fait divers clins d'œil aux autres aventures de Bond, ce qui ajoute un intérêt pour les amateurs afin de trouver tous les détails nous ramenant dans le passé de la dite franchise. Ce nouvel opus réserve plusieurs moments assez excitants et bien troussés, notamment une scène d'escrime d'une intensité peu commune, un endroit où le réalisateur accélère l'image quelque peu sans que ça paraisse et ça ne dérangera pas vraiment le spectateur. D'ailleurs, la réalisation de Lee Tamahori dans ce film-là s'avère vraiment rythmée, musclée et véritablement spectaculaire. Pierce Brosnan fait montre ici de son aisance habituelle et nous démontre sans trop de peine à quel point Bond analyse tout ce qui se trouve autour de lui avant d'agir, quelque chose que l'on n'avait pas vu avant son arrivée. La chimie est excellente entre Brosnan et Barry. D'ailleurs, la distribution est quand même de qualité pour cette aventure, notamment Rosamund Pike, qui fait ses débuts ici sur le grand écran avec une assurance désarmante. Pour les amateurs de l'univers de James Bond des années 70 et 80, on retrouve ici des choses qui nous faisaient plaisir à cette époque-là, c'est-à-dire des décors majestueux, d'excellentes scènes d'action et un méchant digne d'une bonne confrontation avec Bond, avec un plan de conquête du monde tout simplement grandiose. Cependant, du côté des points négatifs, bien que l'action soit omniprésente, celle-ci est vraiment trop over the top, par moments brisant le rythme et le réalisme du film. 007 a droit pour la première fois à des séquences faisant appel à des effets spéciaux numériques, sauf que les dites séquences, surtout celles du surf sur une immense vague vers la fin du long-métrage, sont parmi les moins convaincantes du film. Au niveau de la mise en scène, Tamahori utilise souvent des séquences ralenties ou accélérées, ce qui est un petit peu dérangeant et brise le rythme qu'il cherche à instaurer tout au long du film, tout spécialement dans les scènes d'action, principalement la séquence finale où on a la poursuite entre les deux véhicules sur la glace. Die Another Day comprend trop d'explosions, ce qui en vient même à en être ridicule par moment, car on dirait qu'on rajoute des explosions de peur d'en manquer, ce qui va soutenir le dicton que moins est beaucoup mieux que trop. Au niveau de la composition musicale, eh bien, le compositeur David Arnold, qui avait travaillé sur The World Is Not Enough et Independence Day, fait son retour pour une troisième fois dans l'univers de James Bond. Je vous présente donc ici la chanson thème Die Another Day. Du côté des cotes artistiques, Mediafilm a coté le film The World Is Not Enough 5. J'y vais également avec une cote 5 au niveau de l'âge et du contenu. La régie du cinéma a coté le film 13 ans indicatif. J'y vais également pour 14 ans à cause de certaines scènes de violence. Du côté de Die Another Day, eh bien, encore une fois, Mediafilm cote le film 5. J'y vais également avec une cote 5, principalement à cause de la mise en scène du metteur en scène. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma a coté le film pour tous. À l'époque, il était 13 ans indicatif. Moi, j'y vais quand même encore avec un 14 ans. Il y a encore certaines scènes de violence, notamment la séquence d'introduction où Bond est torturé, que je ne mets pas nécessairement pour un jeune auditoire. Du côté de la sortie des trames sonores, du côté de Tomorrow Never Dies, eh bien, il vous est possible de trouver la trame sonore du compositeur David Arnold disponible sur CD ainsi qu'en cassette. C'est AMI Records qui a fait la distribution en 2002. Vous avez bien sûr l'Expanded Edition qui, elle, est sortie sous l'étiquette Chapter 3 Records. Donc ça, ça a été mis sur le marché en 1999. Du côté de Die Another Day, même chose, sous l'étiquette de Warner Brothers Records, vous avez la trame sonore de David Arnold qui est sortie sur CD et vous avez également la Expanded Edition qui est sortie sous l'étiquette La La Land Records avec une édition limitée à 5000 exemplaires. Cette édition qui est sortie en novembre 2017 et qui est présentement disponible sur le marché, probablement sur le marché secondaire. Au niveau des sorties DVD, eh bien, Tomorrow Never Dies ainsi que Die Another Day sont bien sûr, comme tous les James Bond, des films que vous pouvez trouver sans difficulté en DVD et en Blu-ray disc dans les deux langues, soit en version française et anglaise. Juste surveiller les différentes éditions qui existent. Il y a des special editions, donc des éditions avec des documentaires et des choses comme ça. Alors, c'est à vous de regarder ça, là, Amazon.com ou Amazon.ca, toujours des places où c'est facile pour vous de trouver ces dites éditions pour votre bibliothèque personnelle. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.